J'ai tout à faire encore.
Okay.
Attends, Aircall, j'ai pas vendu.
c'est pas arrivé à là où ça, où ça peut aller.
Où ça peut aller, c'est pas arrivé où ça peut aller. Ouais,
j'ai
ça
pas fait... sonné la cloche.
J'ai pas... Non mais tu vois, c'est quoi la réussite? La réussite, c'est quoi? C'est d'empocher le pognon. Je suis pas sûr que ce soit ça la réussite.
Et ça serait quoi pour toi la réussite, hein?
Non, mais accomplir ce que j'avais voulu accomplir avec Aircall, qui est de faire un leader de la téléphonie dans le monde. Je trouve qu'on est en passe d'y arriver. Mais tu vois, parfois, je m'en veux aussi d'être parti, parce que je me dis, mais en fait, t'es un traître. De l'autre côté, je me dis, mais attends, il y a aussi des personnes qui peuvent mieux faire le travail que moi et qui peuvent emmener Aircall à l'étape d'après. Et donc, rester dans Aircall juste parce que je l'ai fondé, c'est probablement une mauvaise approche. Et beaucoup de fondateurs ont de l'ego vis-à-vis de ce qu'ils ont créé. Là où moi, j'ai plutôt tendance à dire, ce que je veux, c'est le meilleur pour la boîte. Et après 10 ans d'Aircall à se battre, à essayer de créer, le leader de la téléphonie d'entreprise dans le monde, je pense qu'aujourd'hui, il y a des personnes, des opérateurs et des personnes qui vont reprendre la société, donc des personnes qui l'ont déjà fait à ce stade et qui vont l'emmener de 150 millions de chiffre d'affaires à 1 milliard de chiffre d'affaires. Et ça, tu vois, il faut voir le contexte qui est... Quand j'ai commencé Aircall, les investisseurs disaient, ouais, les gars, il faut que vous embauchiez telle personne, telle, tout le temps. Et, mais vous ne pourrez pas le faire. Et nous, on a quand même réussi, quoi, en fait. Finalement, on a réussi à avancer. Et c'est pour ça que j'ai tendance à écouter les gens, mais aussi à... J'aime bien faire mon propre chemin, quoi, tu vois. En revanche, c'est vrai que là, me dire, est-ce que j'ai envie de refaire 10 ans dans Aircall? Et est-ce que je suis le meilleur sur cette terre pour faire les 10 prochaines années d'Aircall? Je me suis posé cette question, et il faut se la poser.
Et visiblement, tu as répondu.
Et visiblement, j'ai répondu. Et j'ai répondu non, je pense pas. Donc, j'ai préféré step out. Et me consacrer à une autre de mes passions, qui est l'immobilier, qui a toujours été l'immobilier.
Toujours été un fil rouge.
Toujours été. Ça m'a suivi toute ma vie. À 18 ans, tu l'as dit, j'ai commencé par faire des prêts étudiants en me disant que j'allais payer mes études. Et après, je me suis dit, en fait, je vais payer mes études avec l'argent que je vais gagner en immobilier. Et dès lors que j'ai eu toujours cet immobilier qui m'a suivi durant mes 10 années Aircall, où j'achetais des appartements, des immeubles, des hôtels en parallèle d'Aircall. Et ben, j'avais ma foncière qui se construisait. La foncière aujourd'hui est assez grosse. Aguesso Capital aujourd'hui a pas mal d'actifs. On est à un niveau où l'entreprise est très rentable et donc où je peux l'accélérer maintenant. On va lever des fonds dans les mois à venir, on va permettre aux particuliers de pouvoir investir avec nous dans l'immobilier, et donc de dire, tout le monde veut investir dans l'immobilier aujourd'hui en France. Tu vois, c'est un problème que je vois.
Ça va être un bon moment en plus, il y a un momentum intéressant.
Les prix commencent à baisser, les taux sont très élevés, donc ça fait peur aux gens. Mais c'est marrant, mais tout le monde veut investir dans l'immobilier, mais personne n'arrive vraiment à investir dans l'immobilier. Et nous, ce qu'on veut faire avec Aguesso Capital dans les mois à venir, c'est vraiment démocratiser ça. C'est dire, oubliez d'acheter des petits studios, des petits trucs où vous allez vous ennuyer.
Vous
investissez avec nous. Vous investissez avec nous. Non, mais tu peux faire de l'effet de levier.
Pourquoi tu t'ouvres et pas... c'est peut-être pas le bon terme, mais vivre égoïstement ton kiff avec ton pote en disant, mais en fait, Non, en fait, c'est parce que t'as l'ambition d'un truc encore qui va crever le pachon, là.
Moi, je veux faire la foncière...
Foncière, déjà.
Non, mais j'ai envie de faire la foncière française qui fait 1 milliard d'AUM, enfin d'assets, donc de biens, dans les 4-5 prochaines années, quoi. Tu vois, je pense que c'est possible.
Portefeuille qui est pas petit, mais qui est
aujourd'hui
maîtrisé,
c'est 60 millions. Demain, j'aimerais que ça soit 1 milliard. Et j'ai vraiment cette ambition parce que j'ai deux ambitions de vivre ça. Un, je suis passionné d'immobilier et de belles pierres. Et je ne supporte pas voir des biens qui ont été abîmés par le temps et qui aujourd'hui sont en train de dépérir.
Tu restes en France, hein, d'ailleurs.
Ouais, je suis très franco-français là-dessus, voire francilien. Donc, Île-de-France, Paris.
Belles pierres, quoi. Belles pierres haussmanniennes.
Et
principalement.
Deux, on est dans un monde où la rénovation énergétique devient un vrai problème. Aujourd'hui, le premier pollueur, on a toujours l'impression que c'est la voiture, mais le premier pollueur, c'est les appartements, le chauffage d'appartements. Pourquoi ? Parce que les appartements sont mal isolés, donc ça chauffe, et en fait ça chauffe l'extérieur. Pourquoi la France, et je crois que c'est français, je sais plus si c'est parisien ou français, a interdit les chauffages d'extérieur ? Parce que c'est un scandale écologique. Dans le café, les gens étaient en terrasse, chauffés à fond, et en fait tu chauffes notre planète. Et moi, je supporte pas à me dire qu'aujourd'hui, on a des biens somptueux, on a que du simple vitrage, on a que de l'isolation pourrie dans les immeubles. Et tu vois, moi, pour moi, je vois ça aussi comme contribuer à ma manière à la rénovation énergétique et donc à sauver notre planète. Parce que j'ai un devoir en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'entrepreneur, d'impacter ça. On ne peut pas laisser notre planète prendre feu. Parce qu'en gros, c'est ce qui est en train de se passer. Cet été, on l'a vu, la France, c'était une fournaise. Moi, j'étais dans le sud de la France, j'ai vu de l'eau de mer à 29 degrés. C'est pas possible.
Ouais, tu flippes.
C'est un bain. Donc, il faut qu'on change ça. Et donc, à travers l'immobilier, j'ai pour mission de changer ça. Et évidemment, le troisième, et on en parle rarement, mais c'est que moi, faire des beaux lieux, notamment des hôtels, redorer l'image de l'hôtellerie française à ma manière, c'est quelque chose qui me passionne, c'est de pouvoir mettre ma main à l'édifice, à un édifice somptueux qui est le patrimoine français.
Et de te nourrir de cette esthétique, de ce beau, de ces matières, c'est de ça. Ces produits, de ce design.
J'adore ça.
On en parlait avec Olivier Ramel il n'y a pas longtemps, qui te rejoint pas mal sur cet univers-là. Si on parle des quatre associés au départ, Aircall, ouais. Vous ne vous connaissez pas?
Non.
C'est chelou de monter une boîte quand on ne se connaît pas.
Mais il n'y a rien de meilleur.
C'est facile de créer une team qui a pour le coup des profils très différents. C'était un avantage parce que vous cherchez à être complémentaire. Pas le même âge, pas les mêmes parcours, pas les mêmes compétences.
Ouais.
Comment on fait pour que ça marche, si tant est que ça marche?
Alors, en fait, je pense que c'est peut-être même le secret de la réussite. Peut-être, je ne sais pas. En fait, tu vois, je suis business angel dans pas mal de boîtes. Une trentaine. Et j'ai investi dans pas mal de boîtes où il y a des fondateurs qui se connaissent, des copains. Bah là, depuis 6 mois...
C'est souvent le schéma.
Ça secoue.
Oui.
Ça secoue, ils se virent entre eux. Ça fonctionne pas, quoi. Donc, après, bon, c'est 4 exemples parmi 30, tu vois. On peut pas faire une généralité. Mais je trouve qu'être avec des gens qui ne sont pas spécialement tes copains, il y a un respect tout de suite qui se met en place. Un respect de « je suis avec une personne », cette personne doit me respecter, cette personne doit être fière de bosser avec moi. Pas parce qu'on est potes et qu'on rigole autour des soirées le week-end, mais parce qu'en fait, je délivre un bon travail. Et donc, de ne pas se connaître spécialement, ne pas être des amis de longue date ou quoi que ce soit, nous a créé ça. Tu vois ? Et la complémentarité, parce que souvent, les copains, malheureusement, ils sont un peu similaires. On dit souvent, montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es.
Il y a peu de toi.
À première vue, tes potes te ressemblent, quoi. Alors, moi, dans mes potes, mes vrais amis, j'ai pas de développeur, quoi. Tu vois. Et donc, déjà, j'aurais eu du mal à créer Aircall si je connaissais pas de développeur. Et donc, en fait, la complémentarité de nos profils, donc Olivier, 10 ans de plus que moi, consultant au BCG pendant 7-8 ans.
Le côté formel, structuré, formel, carré.
Profil parfait d'un point de vue éducation,
rassuré, financier.
HEC... Tu vois, l'homme parfait. Je dis toujours, t'es l'homme parfait, Oli, tu vois. J'aurais voulu être toi. J'aurais voulu être Olivier, moi, parce qu'en fait...
Et la réciproque est sûrement vraie, non? Enfin, oui, en tout cas, il y a des traits de caractère chez toi qu'il n'a pas et qui...
Voilà, et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais moi, j'aurais voulu être toi, en fait. J'aurais voulu avoir cette niaque, ce truc commercial, on y va, on n'a pas peur, on fonce, bulldozer, quoi. Et donc, ça nous a rassemblés. Et Xavier et Pébé, bah, les deux techs, qui... on avait besoin de tech et en fait, ils avaient une humilité, une manière de travailler où ils n'ont jamais compté leurs heures. Et donc, ça a créé un match, tu vois. Et on a été capable, quand on était à San Francisco, et c'est là où vraiment la team founder s'est vraiment resserrée, on a été capable de bosser 7 jours sur 7, 15, 20 heures par jour parfois. Mais je rigole pas, quand je dis 20 heures, c'est arrivé, quoi.
Là, c'était le...
Et moi, je ne savais même plus quelle heure il était à un moment, tu vois. C'était vraiment, on sait plus, quoi. Mais ça avançait et c'était incroyable. J'ai des souvenirs de l'époque de San Francisco.
Et pourtant, c'était flippant parce que c'était, si je me souviens bien, c'était une phase où c'était un peu ça passe ou ça casse. C'était la mort.
Personne ne voulait nous donner de sous.
C'était un peu le dernier.
Non, personne ne voulait nous donner de sous. On était là, on avançait tout seul. Personne ne croyait vraiment en nous. Tu vois, l'équipe, les quatre.
Et t'as toujours dit qu'on n'avait pas vraiment de raison d'y arriver.
Non, on n'avait aucune raison d'y arriver. Parce qu'on n'était pas prédestiné à réussir. Non. L'idée est cool, quoi, la téléphonie d'entreprise, mais il y avait des boîtes qui existaient déjà.
Vous n'y connaissiez rien.
On n'y connaissait rien en téléphonie. On n'avait pas fondé de boîte tech avant. Je sais pas, sur le papier, c'est pas...
C'est pas une évidence.
C'est pas une évidence. En revanche, la différence qu'on a su faire, c'est de travailler plus que les autres. C'est de se remettre tout le temps en cause. Et c'est d'essayer de créer quelque chose d'innovant et révolutionnaire. Et donc, notre approche a été de dire, la téléphonie d'entreprise... C'est pas juste un truc où on décroche et on raccroche. Ça va s'interconnecter à tous les outils métiers de l'entreprise. C'est-à-dire que quand tu vas décrocher ton téléphone, ça va être connecté à ton outil métier, à ton CRM, ça va te remonter la fiche.
Bah, cette dimension d'intégration, c'était votre point fort.
C'était l'intégration. Et au début, personne n'y croyait d'ailleurs. Et c'est ce qui a fait notre succès. C'est parce qu'on s'est dit, si le téléphone communique avec l'ensemble des outils de l'entreprise, on va gagner notre pari. Alors, on ne l'a pas encore gagné en vrai, mais en tout cas, on est bien lancé. Et tu vois, et notre réussite, c'est ça. C'est beaucoup de travail, beaucoup de remise en cause, beaucoup d'innovation. On veut faire d'innovation, on veut que le produit soit innovant, on veut que le produit soit simple à utiliser. Tu vois, on a eu énormément de mal à convaincre au début des AirCall, même des DSI qui disent « mais je ne comprends pas là, c'est... Oulala, c'est trop bateau. Pourquoi ? Parce que le DSI avait l'habitude que ça soit compliqué, et puis ils aiment quand c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué, c'est moi qui gère le truc. Nous, on dit non, mais n'importe qui peut le mettre en place. Et ça gênait à l'époque. Ça gênait. J'ai des DSI, je me souviens, à 8-9 ans, qui disent non, mais en fait, vous remplacez mon boulot.
Je dis, vous allez foutre la merde avec
vous allez
trucs.
Vous allez travailler ailleurs, vous allez faire autre chose. Parce que nous, ouais, AirCall, n'importe qui peut le mettre en place dans sa boîte.